RFI, 6h30 à Paris N'Djamena, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Fabien Albert.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Mahamat Idriss Déby, élevé au rang de maréchal, la cérémonie officielle a lieu aujourd'hui au palais présidentiel. Toute la classe politique sera réunie pour voir le président tchadien marcher sur les traces de son père. Côté opposition, ce sont 24 militants qui sont célébrés, ceux du PSF, libérés de la prison de haute sécurité de Korotoro cette semaine. Une prison pire que l'enfer, disent les ONG. Le PSF, lui, dit toujours subir des intimidations de la part du pouvoir. Dans ce journal également, la visite d'Emmanuel Macron se poursuit à Djibouti puis en Éthiopie. La mairie d'Antananarive reste dans le giron du camp présidentiel à Madagascar. Et puis Patrice Talon a prononcé hier devant l'Assemblée nationale son discours annuel sur l'état de la nation au Bénin. Mahamat Idriss Déby s'apprête à devenir maréchal ce samedi. La cérémonie de maréchalisation du président tchadien se déroulera au palais présidentiel devant l'ensemble des députés et membres du CNT, Conseil national de transition, qui a annoncé il y a une semaine l'attribution de cette distinction. Quelques invités triés sur le volet seront également présents pour voir Mahamat Idriss Déby revêtir l'habit que seul son père a porté avant lui. Correspondance N'Djamena, Victor Moria.
4 ans après son père, Mahamat Idriss Déby va recevoir officiellement la plus haute distinction de l'armée tchadienne à quelques jours des élections législatives, communales et provinciales qui marqueront la fin de 3 ans de transition. Selon Ali Kolotou Tchaimi, l'un des membres du CNT à l'initiative de la proposition, la dignité de maréchal récompense la stabilité apportée par le président à son pays.
Le courage, la responsabilité de notre président, aujourd'hui ont donné que le Tchad est devenu un pays calme, stable, démocratique. Un pays qui a aujourd'hui une nouvelle constitution, un nouveau président élu, mais quelqu'un qui a donné tout à son pays. Ça, ce n'est pas un cadeau. Ce que nous donnons au président Mahamat, c'est un mérite.
Une dignité méritée, donc, selon ses partisans, un signe de basculement vers le totalitarisme pour ses opposants, cite Kyombatina Beni, vice-président du Parti des Transformateurs.
Le président actuel est en train de s'inscrire, n'est-ce pas, dans une sorte de monarchisation du pays. On a redouté ça depuis avril 2021. Donc si on continue comme ça, j'ai bien peur, n'est-ce pas, qu'on s'installe complètement dans le totalitarisme.
Dans les rues de N'Djamena, la nouvelle n'est pas accueillie avec autant de méfiance. Mais beaucoup se demandent si le moment est bien choisi. La campagne législative peine à démarrer et la situation économique difficile reste au centre des préoccupations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Campagne législative que devrait couvrir l'AMET. Après 2 semaines de grève, l'association des médias en ligne du Tchad a obtenu gain de cause. La Cour suprême vient de donner raison aux médias en ligne. Elle lève l'interdiction de produire et de diffuser des contenus audiovisuels prononcés par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la HAMA. Selon la Cour, cette interdiction prive les citoyens de leur droit à l'information et constitue une atteinte grave à la liberté d'expression. Une décision qui tombe alors que tous les médias privés du pays menaçaient d'une journée blanche ce lundi. Toujours au Tchad, quelques jours après avoir été ramené à N'Djamena, 24 militants du Parti Socialiste Sans Frontières, le PSF, ont été libérés. Ils étaient détenus à la prison de haute sécurité de Korotoro depuis leur arrestation fin février lors des événements qui ont conduit à la mort de leur leader, l'opposant Yahya Diallo. Ces libérations pourraient être un acte de décrispation au moment où Mahamat Idriss Déby est élevé au rang de maréchal. Néanmoins, pour le Parti Socialiste Sans Frontières, le pouvoir a agi sous pression et les intimidations continuent, François Mazet.
C'est affaibli et nécessitant des consultations médicales que les 24 hommes ont retrouvé leurs proches après 9 mois à Korotoro. Les défenseurs des droits humains ont régulièrement alerté sur le cas des militants du PSF et c'est ce qui a permis leur libération, estime Mahamat Ousmane Adam, membre du Conseil national du parti.
Nous, on n'a rien à voir avec le maréchal, on n'a rien à voir avec lui. C'est grâce à l'appui des partenaires internationaux, les organismes d'Amnesty International. Ils sont sous pression et à pour cette raison qu'ils sont libérés.
Les membres du PSF continuent de dénoncer les intimidations. Si le chargé des finances Abakar Tourabi a été libéré en novembre après 9 mois de détention par les services de renseignement, le secrétaire général du parti Robert Gam est lui gardé au secret depuis fin septembre et le chargé de communication Évariste Gabnon vit caché depuis 10 jours et une agression présentée comme une tentative d'enlèvement. Il venait d'annoncer le boycott des législatives et de dénoncer l'utilisation frauduleuse du nom et du logo du parti par certains candidats. C'est ce que rappelle son camarade Mahamat Ousmane Adam.
À l'intérieur l'intérêt de Niamey, nous ne sommes pas en sécurité. Moi-même, j'ai été échappé à plusieurs reprises, et Evariste même, il était victime. Nous sommes victimes parce qu'ils ont créé des gens parallèles, ils ont présenté aux élections législatives au nom du parti et nous ne les connaissons pas.
Mahamat Ousmane Adam a lui-même quitté la capitale. Il dit vivre dans la clandestinité en province.
Les précisions de François Mazet. Emmanuel Macron à Djibouti. Le président français va s'entretenir ce matin avec son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Après avoir partagé hier un repas de Noël avec les 1500 militaires français sur place, il en a profité pour annoncer le réajustement stratégique de la base militaire française. Réorientation vers le continent après les déboires connus par l'armée française au Sahel, au Tchad et au Sénégal. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron s'envolera pour l'Éthiopie voisine. Il s'entretiendra ce soir avec le Premier ministre Abiy Ahmed, occasion saisie par Amnesty International pour interpeller le chef de l'État français. Dans un communiqué, l'ONG demande à Emmanuel Macron d'évoquer les violations importantes des droits humains dans la région, qu'il s'agisse de violations en cours ou passées et de l'impunité de leurs auteurs. Écoutez Jean-Pascal Soulé, référent Éthiopie au sein de l'ONG.
D'abord, on constate un contexte de répression croissante des organisations de la société civile et aussi des médias indépendants en Éthiopie. Récemment encore, 3 organisations de défense des droits humains ont été suspendues pour des motifs vagues. Ces attaques aussi, elles interviennent dans un contexte de conflit en région Oromia et Amhara. Et depuis leur origine, on a documenté des crimes de guerre, des exécutions extrajudiciaires, des détentions de masse. On pense que le Premier ministre éthiopien devrait donner un ordre clair aux forces fédérales pour qu'ils mettent fin aux violations multiples qui accompagnent leur intervention dans ces régions. Et enfin, j'en viens à l'impunité systémique qui frappe les auteurs des violations, et notamment bien sûr pendant la guerre du Tigré, qui était une guerre terrible qui a fait 600 000 morts, mais aussi qui a été le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Propos recueillis par Lisa Fabian. La loi d'amnistie a été votée au Burkina Faso concernant les personnes condamnées dans le coup d'État manqué de 2015. Les personnes concernées par l'amnistie seront désignées dans un décret à venir. Elles devront reconnaître les faits, bien se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'indique le ministre de la Justice. En 2015, un groupe de soldats issus de l'ancien régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré suite à l'opposition d'une partie de l'armée. Ce coup d'État avait échoué et plusieurs officiers, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Antananarivo reste dans le camp présidentiel. Nouveau succès majeur pour Ange Radzoen. Les résultats provisoires des municipales ont été annoncés hier dans la capitale malgache par la commission électorale. Résultats prononcés dans un climat de défiance et de suspicion de fraude. Le team principale force d'opposition n'a d'ailleurs pas assisté à la proclamation de ces résultats. Réputé intouchable aux alentours de la capitale, le parti accuse une perte de vitesse dans plusieurs communes. Pauline Le Troquier.
Avec 43% des voix, Arlel Ramanansou offre au chef de l'État, Ange Radzoen, un succès électoral de plus, conserver la très disputée mairie d'Antananarivo dans le camp du pouvoir. Le duel annoncé entre les deux grands clans est moins serré qu'il ne l'a été par le passé. 19 000 voix séparent la candidate Irmar de son concurrent direct, Toudzra Valmanan, du team, le premier parti d'opposition. Pour Augustin Ndjamananour, vice-président de l'Assemblée nationale, ces résultats sont la preuve de la maturité, dit-il, des Tananariviens.
Malgré les calomnies aujourd'hui, tout le monde souhaite le développement d'Antananarivo, la scolarité des enfants, l'assainissement du marché. On veut mettre fin à tous les conflits qui ne portent rien au bien-être de nos citoyens.
La vraie surprise de ces premiers résultats reste le taux de participation nationale, porté à 48,8% contre 41% 5 ans plus tôt. Un signe de réussite pour la CENI qui relativise par ailleurs les cas de bulletins précochés observés le jour du vote. Hubert Fanaïmanan, directeur de cabinet du président de la CENI.
C'était des manœuvres, des manipulations de la part de certaines personnes qui voulaient simplement décourager les autres citoyens à voter. Mais ça n'a pas eu d'impact majeur à la sincérité des votes.
Les candidats malheureux ont encore quelques jours pour adresser aux tribunaux administratifs des preuves d'irrégularité dénoncées. Une fois sa victoire confirmée, Arlel Ramanansou, propulsé nouvelle tête d'affiche du régime, devra encore asseoir sa légitimité à la tête de la première ville du pays où se concentre le pouvoir décisionnel. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
La fin du premier congrès du mouvement républicain au Congo Brazzaville, le jeune parti congolais créé en 2017, a désigné son candidat à l'élection présidentielle de 2026. Sans surprise, ce sera le président du MR, Destin Gavé. Correspondance à Brazzaville, Loïcia Martial.
Au moins une cinquantaine de participants venus de tous les départements du Congo en préparent à ce congrès de deux jours qui a mis en place un bureau politique, un conseil du parti et une commission de contrôle et d'évaluation. Destin Gavé a été élu président du parti dans une salle archi-comble, drapeau du Congo à la main, une écharpe aux couleurs du parti nouée autour du cou. Cet ingénieur pétrolier de 33 ans, ayant essentiellement roulé sa bosse dans le privé, a clairement affiché ses ambitions.
Donc nous jugeons qu'aujourd'hui, nous sommes assez prêts de compétir et surtout d'apporter une alternative au sommet de l'État. Parce que vous savez qu'au Congo, rien ne marche aujourd'hui. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la catastrophe, vous le savez. Les populations n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Le système de santé est précaire, rien ne marche. Les jeunes n'ont pas d'emploi.
Pour Destin Gavé, il est temps de changer la donne.
Donc aujourd'hui, il est question de refonder notre pays. Et on ne peut pas refonder un pays avec ceux qui ont échoué. Il faut une alternative. Et nous avons pris la résolution de sortir ce peuple du chaos auquel il se trouve aujourd'hui.
À moins de 2 ans de l'élection, Destin est le premier candidat déclaré. La constitution actuelle donne au président sortant, Denis Sassou Nguesso, plus de 80 ans, la possibilité de se présenter pour un dernier mandat en 2026. Loïcia Martial, Brazzaville.
Enfin au Bénin, le président Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Face aux députés, le chef de l'État, qui arrivera au terme de son second mandat en 2026, a dressé la liste des chantiers en cours, tout en mentionnant un point noir, la lutte contre le terrorisme, Magali Lagrange.
Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, estime Patrice Talon. Dès le début de son discours, le président en reconnaît toutefois un dans lequel le Bénin est à la peine, la lutte contre le terrorisme aux frontières nord.
Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire.
Point d'insatisfaction, la cherté de la vie qui persiste. Patrice Talon déroule ensuite la liste des chantiers en cours, infrastructures, santé, accès à l'eau potable ou à l'électricité. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement au service de notre développement, conclut le chef de l'État à 1 an et demi de la prochaine présidentielle.
Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique.
Contrairement à l'an dernier, Patrice Talon n'a pas évoqué les relations avec le voisin nigérien. À ce jour, Niamey maintient toujours sa frontière fermée avec le Bénin.
Magali Lagrange pour refermer ce journal. RFI Matin continue avec vous, Julien Coquelroem.
Merci Fabien Albert. RFI.